Bonjour, nous sommes sur Aligre FM 93.1, mardi matin, bonjour à vous tous. Dans la vie est un roman, et j'ai la chance, le plaisir et l'honneur de recevoir monsieur le professeur Denis Buican pour un livre déchirement entre Fossi et Marteau, publié aux éditions Exil. Bonjour mon cher professeur.
Bonjour, bonjour chers collègues.
Et donc, la première question que je vais vous poser, c'est de quoi parle votre livre ? Quelle période décrivez-vous ?
Le livre parle, disons, de la pire période de la dictature communiste en Roumanie. Cette pire période a commencé avec l'invasion de l'armée rouge en 44-45. Les communistes ont pris le pouvoir total en 47-48, et la pire période a été la première période qui a duré jusqu'à 63, la collectivisation forcée totale de l'agriculture, où des centaines de milliers de personnes ont été tués ou dans les prisons et dans les tortures qui ont dépassé les tortures de l'Inquisition, ou dans le canal Danube-Mer Noire en Roumanie, ou par exemple dans des différents villages qui étaient torturés par la milice et par la sécurité s'ils ne voulaient pas entrer dans les kolkhozes. Et cette période la pire est due à la complicité vodka-cola, Staline, Roosevelt et leur épigon, qui ont permis à Staline d'aller jusqu'à Berlin et imposer sur les baïonnets de l'armée rouge les dictatures communistes. Donc, comme vous voyez, le monde se trouve maintenant dans une dichotomie tragique, comme je pourrais, disons, synthétiser, entre Goulag et Guantanamo.
Mais votre livre ne tient pas les propos généraux que vous venez d'énoncer, mais raconte une histoire très particulière, raconte l'histoire d'un jeune homme, c'est le vécu d'un jeune homme.
Bien sûr que sur ce fondal général des terreurs et des chapes de plomb de la dictature communiste, j'ai décrit mon expérience personnelle. Quand à 14 ans j'ai eu domicile surveillé, quand mon père a été arrêté et torturé et tué en 51 dans la prison de Karansebech, et aussi, hormis mon expérience personnelle, j'ai décrit aussi une radiographie générale de la terreur de la dictature staliniste en Roumanie, quand par exemple beaucoup de mes cousins qui étaient des simples élèves à Sibiu ou à Alba Iulia étaient arrêtés et torturés, disons adolescents, parce qu'ils avaient fait dans leur lycée une sorte d'association anticommuniste considérée par la sécurité comme un gouvernement. Ils ont été torturés comme beaucoup d'autres d'une manière horrible. Donc ce que j'ai décrit, c'est mon expérience personnelle, mais aussi l'expérience, la radiographie pratiquement de tout un pays avec les prisons horribles de ces dictatures communistes. Or, en France, malheureusement, la plupart des historiographes, je voulais dire, décrivent uniquement la période Ceausescu, qui malgré tout a été la période la meilleure du communisme en Roumanie, surtout dans sa première période, avant de revenir avec la révolution culturelle à 71 des Corées et des Chines, tandis que la première période a été la pire. Pourquoi ils font ça? Parce que certains soi-disant réfugiés politiques en France, dans la première période, étaient des tortionnaires et des stalinistes ou des espions, et dans la dernière période plus laxe, ils ont pu se réfugier, pour ainsi dire, à l'Occident, n'étaient pas des réfugiés politiques, mais des réfugiés économiques. D'ailleurs, pour ça, j'ai refusé d'être réfugié politique en France quand je suis venu à un congrès international en 69, et j'ai été naturalisé à titre exceptionnel en 72 sur l'article « L'étranger qui présente pour la France un intérêt exceptionnel » qui demandait une vote préalable du Conseil d'État sur le rapport à des deux ministères. Malheureusement, comme j'ai dit, le goulag que j'ai vécu et la terreur communiste socialiste. La cortine de fer dont parlait Churchill, par exemple, qui d'ailleurs était un complice objectif de Staline, disons, cette cortine de fer était bien sûr tombée sous les dictateurs communistes, mais malheureusement, les démagogies capitalistes américaines, britanniques, français et autres n'offrent pas ce que je croyais, la liberté individuelle, et ne permettent pas une critique libre, parce qu'une police abusive et corrompue, comme celle de Moscou sur Seine, pardon, de Paris, je voudrais dire, me rappelle ce que j'ai vécu dans la terreur communiste que j'ai décrit dans mon livre.
Est-ce qu'on pourrait revenir vraiment au contenu de votre livre, qui est quand même l'incarnation d'une destinée personnelle, et c'est en ce sens-là que c'est aussi un livre très intéressant, et dont vous veniez d'un milieu privilégié, en fait, par rapport au pouvoir qui va s'installer. Est-ce qu'on pourriez décrire un petit peu votre milieu ?
C'est vrai que j'ai été considéré d'une origine sociale malsaine, disons parce que mon père était un boyard et philanthrope, et ce qui ne lui est pas pardonné d'avoir été philanthrope. C'était dangereux d'être philanthrope auparavant, parce que ça offrait une popularité qui dérangeait la dictature communiste. En grande partie à cause de ça, il doit son assassinat dans la prison de Karasebech. Moi-même, on m'a mis domicile surveillé à 14 ans, disons, mais j'ai été le seul, je pense, de tout le bloc communiste qui a refusé de pointer à la milice. Probablement que je dois ma vie à la mort de Staline en 53, quand j'ai commencé à avoir 18-19 ans, et quand le domicile surveillé m'a été, m'a été sucré, pour ainsi dire vulgairement. Mais auparavant, j'ai risqué ma vie chaque jour, et même après, parce que mes cousins, par exemple, certains ont été tués dans les prisons communistes, dont certains ont fait des longues années de prison. Et aussi la résistance qui a été dans la montagne et que j'ai décrit a été détruite par la sécurité communiste et par les armées rouges. Il ne faut pas oublier que l'armée d'occupation rouge a été en Roumanie jusqu'en 58, et que par les SOVOM, c'est-à-dire les sociétés mixtes soviéto-roumains, ont siphonné toutes les richesses du pays vers l'URSS. Donc les collaborateurs des SOVOM étaient, pour ainsi dire, des coupables de haute trahison. C'est vrai que certains étaient forcé de faire ça, parce que dans une telle dictature, personne n'était libre de ses mouvements. Donc, depuis mon enfance, par exemple, j'ai connu, disons, les dictatures militaires d'Antonescu et la dictature pire, totalitaire, pyramidale du communisme en Roumanie, et j'ai essayé depuis l'âge de 7 ans, quand j'avais déjà des idées politiques contre le fait que le dictateur maréchal Antonescu, qui était le similaire au Pétain français, a entré en guerre contre l'URSS à côté d'Allemagne en passant la ligne du Dniestr. J'ai été contre, disons, en écoutant ce que disait dans un mémorandum Iuliumani, où le chef du principal parti d'opposition, qui disait que la Roumanie doit entrer contre l'URSS pour récupérer la partie volée, la Bessarabie, à cause du pacte Ribbentrop-Molotov, Staline-Hitler, mais n'est pas allé plus loin.
Oui, mais votre livre, il y a quand même, sur cette incarnation, raconte la déshumanisation d'un individu. Ce que vous racontez, c'est en fait c'est cette profonde transformation de personnalité qu'essaye d'opérer le système, qui finit par le changement de nom comme rite de passage d'une société à d'une autre, d'un système à un autre. C'est ça que vous racontez.
Je pense que
votre livre, vous vous incarnez totalement. Là, vous dites des propos généraux.
Je pense que ce que vous avez choisi comme caractérisation n'est pas tout à fait, pour ne pas dire correct, étant donné qu'il faut prendre plutôt déchirement, parce que personnellement, j'ai été déchiré, disons, par les tortures que j'ai vues autour ou que j'ai subies, mais je n'étais jamais vraiment dépersonnalisé. C'est-à-dire, ils pouvaient me tuer ou m'écraser, mais pas me faire changer de personnalité, c'est que je n'ai pas réussi ni la dictature communiste, ni la démagogie capitaliste occidentale. Je suis resté depuis 7 ans jusqu'à 83 ans, je n'ai pas encore la chance d'être ramolli pour ne pas me rendre compte du bas monde où on vit, je suis resté toujours un homme et un combattant pour la liberté, même si je me rends compte que après un Orient dément, je trouve un Occident dément, où le combat pour la liberté est un combat impossible pour une liberté impossible. Malgré tout, j'ai fait mienne la devise du statutaire d'Hollande, Guillaume le Taciturne, qui disait qu'il n'est pas besoin d'espérer pour entreprendre. Pour ça, je ne croise pas les bras et j'ai combattu dans la dictature communiste depuis l'âge de 7 ans jusqu'à 35 ans, comme j'ai pu et dans des conditions difficiles, en essayant d'aider depuis la dictature d'Antonescu, des juifs persécutés quand j'étais encore très riche, j'allais dans tous les traboules de Craiova pour les porter des aliments avec toute une armée de serviteurs. J'ai essayé aussi dans la dictature communiste de prendre dans mon laboratoire. Je dois ma vie aussi au fait que j'ai été considéré une scientifique d'exception. Tous les étudiants qui ont été mis à la porte de la faculté de biologie. D'ailleurs, pour ça, j'ai suscité dans les archives du comité concernant les archives de sécurité parmi les biologistes résistants qui, dans l'affaire Lysenko, ont résisté et qui ont réussi d'écrire le premier livre publié en 69 dans les pays communistes, le premier livre qui attaque Lysenko, le biologiste favori de Staline, qui en Russie, en Roumanie, a détruit tous les laboratoires de génétique en tuant comme saboteur les généticiens, dont Vavilov, le plus important généticien soviétique.
Oui, merci, c'est très très bien. Et donc, je ne sais pas, je vous laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que vous voudriez dire d'autre sur votre livre qui vous paraît important ?
Je voulais dire que je considère que si je ne me suis pas suicidé dans la dictature communiste ou dans la démagogie capitaliste, et pour le fait que je voulais, comme on m'a dit alors même par certaines personnes, d'être une sorte de bouteille jetée à la mer dans l'océan universel qui apporte un témoignage. Je pense que ce livre est un livre de radiographie témoignage pour la terreur personnelle que j'ai subie, mais qui ne m'a pas écrasé. J'ai été déchiré entre plusieurs affaires et entre plusieurs situations, mais pour autant j'ai gardé ma personnalité, j'ai gardé ma force de combat pour la liberté, et je pense que je préfère, comme le dernier empereur de Constantinople, Constantinos Dragas Espaleologus, être tué dans le combat sur les remparts de ma cité perdue, de la liberté universelle, plutôt que de mourir dans un lit misérable d'hôpital de Paris, de Bucarest ou d'ailleurs.
Écoutez, merci bien. Donc c'est Denis Buycan, le professeur Denis Buycan, qui a écrit « Déchirement entre faucille et marteau » pour les éditions Exil. On le remercie d'être venu. Tu peux nous mettre la musique, Didier, s'il te plaît. Merci bien, professeur, d'être venu.
Merci. Alle kann fei ha schien.
שאנחנו בניהם ובנוסיהם, אחיהם ויחוסיהם, נודרים צדוקו ביד הסקורס נשמו אסיים. וגנה
Bon, ben maintenant, avec Philippe Thureau d'Engin, qui est donc l'éditeur, le directeur de l'excellente maison d'édition Exil, que nous aimons beaucoup, La vie est un roman, nous allons parler d'un excellent livre de Benoît Reisky, Fils d'Adam, nostalgie communiste. Benoît Reisky n'a pas pu venir pour des raisons, il a des raisons personnelles. Et donc, je vais demander, pour commencer, à Philippe de nous expliquer, en gros, de quoi parle le livre, quel est le contexte du livre, à toi de nous dire.
Oui, merci d'abord de nous accueillir. Et là, ce livre, en fait, est assez court. Hein. C'est une centaine de pages, mais en fait, il y a trois livres à l'intérieur. C'est d'abord une lettre que Benoît Reisky écrit à son père. Son père, bien sûr, décédé depuis longtemps, qui était Adam Reisky. Et Adam Reisky était une figure de la résistance, une figure du Parti communiste pendant longtemps, et un juif de Pologne. Et donc, comme souvent, les fils de grands hommes souffrent. Et donc, cette lettre est une lettre aussi de souffrance, d'être le fils d'un homme assez fort, de caractère, très, très honnête intellectuellement, etc. Ça, c'est la première chose, bien sûr. Et dans le livre, il y a aussi... Comme évidemment, Adam Reisky a traversé le siècle, le XXe siècle, et puisqu'il venait de Pologne, il est arrivé en France, il s'est engagé dans le Parti communiste, il s'est engagé dans la résistance, il a été le chef politique des FTP Moy, donc de cette branche de la résistance communiste ouverte à la main-d'œuvre émigrée. Eh bien, c'est la traversée du siècle. Il est revenu, Adam Reisky est revenu avec son fils et sa femme en Pologne après la guerre. Il a pris des responsabilités au sein du régime polonais communiste. Et puis, il a senti que ça allait peut-être tourner assez mal. Il est reparti pour la France.
À cause de l'antisémitisme, au montant.
À cause de l'antisémitisme, effectivement. Et à ce moment-là, le régime polonais lui a demandé de revenir. Il a refusé. Il a été jugé par contumace à Varsovie. Et puis, il a été dénoncé par les Polonais auprès des services français qui l'ont. Et il y a eu un tribunal français qui l'a jugé. Il a fait de la prison en France, soi-disant pour espionnage au bénéfice de son pays natal qui était la Pologne. Donc, tout ça pour dire que dans ce livre, il y a aussi une histoire de ce siècle européen si tragique, avec bien sûr en toile de fond la Shoah, puisque dans cette famille donc juive polonaise, à part Adam qui a traversé la résistance et avec quelques petits miracles, bien beaucoup bien sûr ont péri dans les camps. Et puis le troisième livre dans le livre, c'est une sorte de nostalgie du Yiddishland, donc de ce pays qui n'a jamais existé, qui était donc le pays yiddish, où on parlait yiddish, qui était un pays assez vaste, qui allait du nord de la Lituanie jusqu'aux confins de la Bucovine en Roumanie, puisqu'on était pas loin tout à l'heure en Roumanie, et de la Russie jusqu'à la Prusse. Donc c'était un pays, et c'est un pays qui a disparu au XXe siècle. Et donc le livre aussi est très nostalgique. Et comme souvent, la nostalgie, c'est la nostalgie de ce qu'on n'a pas vécu. Et en fait, Benoît Risky, l'auteur, qui est né donc en 1938, ses parents, après la guerre, voulaient s'intégrer, donc ne parlaient pas yiddish devant leur fils. Et donc c'est une histoire d'acculturation au fond et de perte de mémoire. Voilà, c'est ça que raconte le livre.
Il y a le côté Comiterne, par exemple, puisque tu parlais de l'histoire. Il est en Chine, donc il fait la révolution. Après, il est enfermé en Pologne quand un ministre chinois est en visite. Il demande à le voir, donc on le sort de prison. Donc on a une vie assez... C'est la vie du père, elle est assez aventureuse. Cette affaire incompréhensible du père qui est considéré comme un espion polonais en France, enfin, on n'a pas l'arrière-fond de manipulation des services secrets, vraisemblablement les uns par les autres. Donc il y a toute cette affaire. Et il y a, moi aussi, ce qui m'a beaucoup frappé, mais c'est parce qu'il y a longtemps, j'étais en Israël et j'ai fréquenté... J'avais une copine qui était une ancienne amie de Cybulski, donc il y avait... Très tôt, j'ai appris beaucoup de choses sur l'antisémitisme des Polonais. Là, je parle de 71, donc c'est effectivement très tôt. Et je vais lire une petite page, là. Enfin, je ne vais pas la lire, mais à la page 63, il décrit ce qui s'est passé après-guerre, en fait. Hein. Il y a Bon, si nous allions à Kielce pour voir un peu, dans cette localité au sud de la Pologne, le 6 juillet 1946, 52 juifs furent bestialement massacrés. Donc on est le 6 juillet 1946. Hein. 56 juifs furent bestialement massacrés. Un enfant polonais avait disparu, il réapparut 3 jours plus tard, en expliquant que des juifs l'avaient enfermé dans une cave en vue d'un meurtre rituel. Donc on a une prédelle du XVe siècle qui est à Florence. La prédelle, c'est une bande dessinée qui est en bas d'une toile qui raconte une histoire qui est narrative. Et cette prédelle du XVe siècle raconte la profanation d'une hostie par les juifs et un meurtre rituel. Donc on est dans un antisémitisme très classique, hein, puisqu'on en a des preuves, par exemple, visuelles et narratives depuis le XVe siècle. Et ces Polonais vont tuer les Juifs pour récupérer leurs biens, et aussi parce qu'ils ont un antisémitisme très profond. Et après-guerre, il n'y aura pratiquement plus de Juifs en Pologne, et l'antisémitisme restera très très fort. C'est vraiment c'est une marque, en fait, C'est tout ce côté, enfin le nationalisme est quelque chose de sale et de mauvais et qui touche toujours beaucoup les gens. Ils adorent ça, cette idée nationale et de plus, enfin ça revient quoi, comme la religion. Mais quand même là c'est très flagrant. Hein. Je sais pas si tu veux nous parler un tout petit peu de ça.
Oui, bien sûr. Ce qui est curieux, c'est que l'auteur Benoît Risky, en fait. Trouve quand même nécessaire de revenir dans ce pays, justement, la Pologne.
Son pays.
Et qui est son pays, qui est un pays, en fait, imaginaire. Enfin, il a vécu un peu pendant son enfance, juste après la guerre de 45, mais c'est quand même un pays largement imaginaire et malgré tout extrêmement prégnant. Et je pense que cette tragédie polonaise et cette tragédie juive sont intimement liées. C'est-à-dire qu'évidemment, on peut parler d'antisémitisme ancestrale et atavique des Polonais, ce qui est tout à fait juste. Mais en même temps, il y a un double attachement. Et je pense que les Polonais aussi souffrent de ne plus avoir finalement cette présence aujourd'hui d'une communauté juive dans leur pays, puisque maintenant les Juifs en Pologne sont très très peu nombreux.
Ben, je dédoute là-dessus, mais enfin, si tu le dis, c'est peut-être vrai. J'ai pensé aussi que les Allemands avaient éradiqué leur culture en tuant tous les Juifs, mais j'ai remarqué peu de nostalgie des Juifs disparus en 68, quand j'ai fait mon service militaire en Allemagne. Et puis une autre question qui n'est pas anecdotique du tout, qui m'a beaucoup impressionné, malheureusement l'auteur n'est pas là, enfin c'est une remarque. Il dit toutes les occasions de cracher sur Stéphane Courtois sont bonnes. Donc Stéphane Courtois est le coordinateur du livre noir du communisme, qui est un livre qui nous a tous énormément marqués, qui était la fin de toute cette aventure qui a commencé avec l'archipel du Goulag et qui clôturait la question définitivement quand on apprend, par exemple, que le Parti communiste vietnamien, quand il prend le pouvoir, la première démarche qu'il fait, c'est de tuer tous les trotskistes qu'il y a dans le parti. Donc se sent puté des trois quarts des membres, en fait. On est assez impressionné, c'est cette grandeur tragique. Hein. On l'a bien appris avec le Cambodge, mais elle a existé partout. Enfin, c'est d'une très grande beauté, cet empire communiste en tragédie, en massacre, en torture, en choses de toutes les sortes. Et voilà que ce Benoît Reski, qui connaît certainement mieux le problème que moi pour un tas de raisons, nous dit « il faut cracher sur Stéphane Courtois ». Est-ce que tu sais pourquoi ?
Non, je ne sais pas pourquoi. Enfin, c'est des histoires personnelles qui... Et je ne voudrais pas rentrer dans ce débat, mais ce qui est intéressant dans le livre, c'est que d'abord, ça s'appelle « Nostalgie communiste », le sous-titre.
Ouais,
en fait, c'est les nostalgies, effectivement, d'un gamin qui vit en allant aux fêtes de l'humanité, aux réunions du PC, enfin avec son père. Mais son père va quitter le PC dans les années 60. Et il passera pour un traître. Et lui-même, Benoît Reski, l'auteur, va écrire dans sa vie de journaliste énormément d'articles sur le Parti communiste, sur les communistes, en critiquant énormément. Mais je pense qu'avec Stéphane Courtois, effectivement, il y a une différence de vécu, parce que lui vient. Reski, lui, vient du sein maternel communiste, alors que Courtois vient d'une autre histoire.
Alors, je viens d'entendre Courtois, il vient de faire un livre sur Lénine, et je l'ai entendu parler à France Culture, et il y met très peu d'affectivité, et il travaille comme un rouleau compresseur. Voilà. La journaliste, parce qu'ils sont sentimentaux, même à France Culture, toi qui connais bien le problème, la journaliste est très sentimentale, elle voulait quand même trouver des qualités à Lénine, mais quand même, il est beau garçon, il est grand, il est sympathique, cet œil vif, quand même, il est juif, je sais pas, elle cherchait à tout prix à lui trouver une qualité, et Courtois disait non. Et il me faisait penser à, je sais pas, un biographe de Stevenson ou un truc comme ça. Il essayait d'être très objectif. Il disait non, c'est un salaud, c'est une ordure. Non, salaud, ordure, on peut pas sortir de ça. Alors bon, c'est très compliqué. On trouve très touchant ces excellents livres qu'on lit sur l'Ukraine communiste, la Moldavie communiste, la Lituanie communiste, la Roumanie communiste, sur les gymnastes hongrois, roumains, les petites filles qui faisaient du sport et qui couchaient avec le fils du Premier ministre. Tout ça est adorable, on est bien d'accord, c'était formidable. Mais ça reste très tendu. Je dois dire que le livre de Reski m'a enchanté sur le style, sur la façon d'écrire, sur le rapport au monde. Je pense vraiment que c'est un livre formidable.
Et je peux ajouter une chose, Yves, c'est que moi, ce qui m'a plu dans ce livre, c'est aussi son humour. C'est-à-dire qu'on vient de parler de choses très graves.
Très profond.
Voilà, on vient de parler de choses très graves, de l'histoire effectivement européenne du XXe siècle qui n'est pas drôle. Mais il y a énormément d'humour. Tu évoquais l'anecdote du dirigeant chinois qui arrive en Pologne et qui et qui demande à voir son ami et on le libère de prison. Mais ça, c'est un épisode, mais il y a d'autres...
Tout est comme ça.
Tout est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il y a par exemple, ça démarre sur le Père Lachaise, où est enterré Adam Reiski, donc le père, et non loin des dirigeants communistes qu'il a aimé ou moins aimé, mais en tout cas qu'il a beaucoup côtoyé, comme Jean Canapa, qui était l'idéologue du PC, ou comme Henri Krasucki, qui a été à la tête de la CGT. Et donc, Benoît Reiski imagine qu'il commence à se parler de tombe à tombe. Et il commence à se parler d'abord en français, puis après, il passe assez vite au yiddish, puisque finalement, ils sont tous yiddishophones. Et ça, c'est une autre anecdote. En fait, c'est une autre façon de, comme tu le dis, de mettre beaucoup d'ironie et même de l'humour dans une histoire qui est par ailleurs assez tragique.
Et aussi Reiski a eu un moment de gloire ces derniers temps en insultant une ministre pour que nos nombreux auditeurs, ceux qui sont en train de rouler pour aller au travail, fassent le rapprochement et se jettent sur le livre que tu viens d'éditer. Il faut que tu articules ça maintenant avec ce formidable article « Les filles n'avalent pas ». Déjà, le titre est d'une grande finesse. Et puis, le patron d'Atlantico, qui est aussi un site d'une grande finesse et qui a des très bonnes pages People, a dû s'excuser publiquement. Alors maintenant, il faut que tu nous racontes.
Non, j'aurais du mal à raconter parce que je ne l'ai pas vraiment lu. Mais ce que je sais, c'est que Benoît Reiski est devenu, au fil des années... les qualités s'approfondissent, mais les défauts aussi. Et il est extrêmement polémique dans toutes ses interventions. Et donc, notamment sur le site Atlantico, qui est classé évidemment assez à droite, il se déchaîne sur une certaine médiocrité gouvernementale de ces dernières années. Et donc l'anecdote, en fait, je ne la raconterai pas parce que je ne la connais pas bien. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand Benoît est venu me proposer ce livre, j'ai un peu hésité parce que je me suis dit, bon, La Maison Exil est quand même plutôt marqué à gauche, et là c'est vraiment un auteur qui est très très classé à droite, et je lui ai dit surtout, Benoît, tu racontes ton histoire mais tu ne juges pas, parce que effectivement il a tendance dans ses papiers, dans ses articles, à juger tous les contemporains et même les morts, et donc je trouvais que son histoire était très belle et qu'il fallait qu'il la raconte. Et je crois que dans le livre, ce qui est assez réussi, c'est justement que le polémiste dont tu parles, qui est parfois outrancier, eh bien, le polémiste est un peu mis de côté pour une sorte de conteur qui effectivement se souvient.
Moi, je trouve que c'est qu'il écrit très bien, et même je n'ai pas réussi à lire l'article. J'ai essayé de lire, mais je ne sais pas, je ne suis pas arrivé à rentrer dedans. Mais le fait qu'il arrive à faire des polémiques comme ça de nos jours avec quatre mots, moi j'ai de l'admiration pour ça. C'est quand même jamais que les filles n'avalent pas. C'est quand même pas mal, quoi. Et puis il a fait toute la presse, et la presse en ligne, enfin c'est mon rêve, quoi. Je veux dire, je cherche des formules de ce genre-là, mais je ne sais pas qui est Marlène Schiappa qui l'a insulté, donc je ne peux pas l'insulter, c'est ça le problème. Mais je trouve que c'est très très bien écrit. Et puis, oui, toutes ces aventures, enfin, on est toujours dès qu'on parle de ce communisme, et c'est... Bon, là, la semaine prochaine, il y a quelqu'un que je trouve formidable qui va venir nous parler du nazisme, mais on s'attache moins, on a beaucoup plus de recul, enfin, je parle pour certaines personnes, dont moi. C'est-à-dire qu'on a l'impression, quand même, dans des affaires de famille, dès qu'on parle des communistes, c'est quand même nous qui nous ont niqué... Ceux qui auraient pu être et ceux qui ne seraient pas.
Oui, puis malgré ce que raconte Stéphane Courtois et d'autres sur Lénine, Staline, etc., dans le communisme et dans cette nostalgie communiste dont parle Benoît Reiski, il y a un fond quand même de sincérité et d'engagement pour le bien de l'humanité, enfin, qui était réel.
Je ne suis pas sûr, mais ce qu'il y avait, c'est...
Non, mais pas chez Lénine, pas forcément chez Lénine ou Staline, mais chez tous les militants.
Non, ce qui est sûr, c'est qu'on a de la peine à se séparer de Marx.
Oui.
Et qu'on a même de la peine à se séparer des gueules, et je dirais même de Spinoza, puisqu'on a parlé Spinoza dernièrement. C'est de ça dont on a de la peine à se séparer. Mais de penser que... Et c'est plus dur encore avec Trotsky, parce qu'il a un style tellement élégant, il raconte des histoires tellement formidables, et je sais pas, j'avais tellement aimé Adolescent, leur morale n'est pas la nôtre, que j'ai eu de la peine à comprendre que c'était une vraie crapule. Mais je dois admettre que c'est une vraie crapule et qu'il fait tirer sur le soviet très très, les soviets des marins très très vite. Et puis c'est lui qui organise l'armée rouge. C'est quand même extraordinaire.
Donc. Bah, oui, mais s'il n'avait pas organisé, il n'y aurait pas eu de. Ils auraient été tous mis en prison au bout de quelques mois.
Hein. C'est compliqué. Hein.
Ça a été très, très tendu, quand même, tangent, la victoire des Soviets.
Est-ce que tu as lu Émile Nold ?
Non, non, non.
Tu vois qui c'est ?
Oui.
Alors, Émile Nold dit que Hitler, le nazisme, tout ça vient du communisme et que c'est les communistes qui ont instauré un régime de terreur en disant on peut tuer un certain nombre de gens en fonction d'un certain nombre de critères. C'est quand même une problématique. Enfin, qui... Et vous avez vu tous, je fais de la publicité pour le livre de... Achetez les livres d'exil, c'est très bien. Vous avez vu que c'est quand même cette question du nazisme ne passe pas, là. Elle a remis deux prix hier, et les deux prix, c'est sur le nazisme. Et donc, si vous voulez avoir un prix, racontez un truc, n'importe quoi, qui se passe entre un juif et un nazi, et c'est bon. C'est quand même incroyable, comme ça se passe pas, ça n'arrive pas à l'avaler, c'est quand même fou, ça.
Mais il me semble que c'est parce que c'est une critique de notre... Enfin, c'est une volonté d'avoir de la politique, quoi, de refaire de la politique.
C'est une bonne idée. Mais le problème, c'est qu'on peut avoir des posters Mao Tse-tung quoi, dans une publicité, qu'on trouve ça très sympathique et que c'est pop. Hein. C'est vraiment pop, mais on ne peut pas le faire avec Hitler. Et quand les punks se mettaient des petits signes genre pas des choses, enfin juste une petite croix gammée quoi, ou des machins comme ça, et puis ils se faisaient casser la gueule quoi. Enfin moi je me souviens là aussi, j'étais adolescent à Bruxelles, j'allais au bistrot et il y a un garçon qui est venu avec des colifichets nazis sur lui, et un quart d'heure après quelqu'un lui a cassé la gueule, vraiment, elle l'a fait sortir, elle lui a tapé dessus, alors que ouais, bon, et donc si je viens avec le marteau et la faucille, c'est quand même, tout le monde va trouver ça sympathique. Donc le boulot n'a pas été fait. À moins que tu ne sois pas d'accord.
Non, non, je pense qu'il y a une proximité. Je pense qu'il y a une trop grande proximité avec l'hitlérisme, le fait qu'un certain nombre de Français est trempé dans cette affaire-là, le fait que la France n'ait pas été extraordinairement courageuse non plus dans son ensemble. Et donc, le passé qui ne passe pas, c'est celui-là, en fait, c'est le nôtre, c'est pas celui de l'Allemagne. Alors que, bon, Mao Tse-tung, même s'il y a eu quelques maoïstes en France, etc., c'était beaucoup plus folklorique, beaucoup plus lointain, et que même si le nombre de morts est à peu près équivalent... et les horreurs aussi, c'est une autre histoire. Alors que l'hitlérisme, d'où effectivement les prix littéraires, d'où ce ressassement, d'où cette parce qu'au fond c'est notre impensé, c'est le fait que la France a trempé dedans sans en être vraiment, sans le vivre vraiment, enfin en étant déjà une puissance un peu annexe.
Écoute, je te remercie d'être venu et puis n'hésite pas à nous prévenir dès que tu republies un autre livre, les éditions Exil, Benoît Raski, fils d'Adam, nostalgie communiste. Regardez ça dans la
Merci
librairie
beaucoup.
La plus proche de chez vous. Je te remercie d'être venu.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans.
Alors voilà maintenant notre nouvel invité, Paco Ntielman.
Bonjour
et,
Yves.
Bonjour. Et Loïc Konowski, qui a eu la gentillesse, l'amabilité de me lire très attentivement le livre de Pacôme et qui va nous en tracer les grandes lignes et parler avec Pacôme, ou enfin c'est lui qui va décider ce qu'il veut faire avec Pacôme. Je le vois en train de jeter
des morceaux de papier
comme s'il distribuait des cartes.
Oui,
bonjour.
C'est ça.
Donc, on va faire une interview aléatoire, fragmentaire,
ouais.
Et ça sera
Est-ce que je fais un tarot avec ces cartes?
Si tu veux.
Ok.
Ça sera à l'auditeur de recoller les morceaux, comme ça, ça fera travailler un petit peu.
Voilà, alors en fait, peut-être que je décris ce que je suis en train de voir. Donc, Loïc Konowski vient de m'envoyer des morceaux de papier que j'ai posés sur la table, qui composent donc, en quelque sorte, mon interview. Je suis aussi surpris que vous, hein, les gars. Je vais en relever... 1 pour voir ce qui m'attend. 20.
Alors 20, ça veut dire page 20.
D'accord. Donc allons à la page 20.
Je vais page 20 et je découvre une phrase. Des Hébreux qui le combattent, Jésus dit qu'ils sont les enfants du diable. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. C'est sûr, on n'est pas obligé de le croire.
Alors, écoute, peut-être qu'on on contextualise. C'est un passage de l'évangile de Jean. Et en fait, dans le premier chapitre donc du livre que nos auditeurs découvrent à l'instant même.
On a oublié de dire le titre du livre, peut-être.
Ah, le titre
Mon
du
attaché
livre.
De presse va m'engueuler. Hein.
La victoire des 100 rois.
Voilà.
Chez Puf.
Dans la collection de Laurent de Sutter, Perspective critique.
Voilà.
Et donc, le livre est un livre sur ceux qu'on appelait les gnostiques, mais il démarre sur un chapitre présentant des passages des évangiles du Nouveau Testament et des extraits du Nouveau Testament, des quatre évangiles.
Est-ce que je peux te couper? Excuse-moi.
Vas-y,
me permettre de te couper, parce qu'en fait, j'avais prévu une introduction.
Ah bon, d'accord.
Et que j'ai complètement oublié. Voilà, alors ça commence comme ça, le livre. De retour chez lui à El Quartz, il jette négligemment les codex de papyrus sur un tas de paille et sa mère manque de brûler le trésor, craignant les énergies diaboliques qu'il pourrait contenir. Il faut l'intervention de l'oncle Mohamed pour que celle-ci ne mette pas sa menace à exécution. Quelques semaines plus tard, Mohamed Ali El-Saman et ses frères assassinent le meurtrier de leur père, Ahmed Ismaël, et ils le tuent avec leur pioche, le mettent en pièces, arrachent son cœur et le dévorent. Donc là, on a une intro de thriller, quoi. Ensuite, je vais page 108. C'est 4 pages avant. Là, on a un autre teaser. Il y a...
Tisons
tous. Il y a une quasi-certitude. C'est que l'on a voulu nous cacher quelque chose. Et on y a réussi. Ce n'est pas par hasard qu'il y a tant de textes détruits, tant de ténèbres sur une partie si essentielle de l'histoire. Voilà. Donc okay.
Ça, c'est une phrase de Simone Veil.
Voilà, bravo.
Je vois que tu as lu le livre.
Bah
oui, j'ai dû le corriger quand même malgré tout, même si je ne l'ai pas écrit, si c'est la divinité qui l'a écrit pour moi.
Et là...
Enfin, là, c'est Simone Veil qui l'a écrit.
Et là, je finis le teaser. Et si Simone Veil meurt avant la découverte de la bibliothèque de Nag Hammadi, Jung, le psychanalyste, meurt avant d'avoir pu prendre connaissance de ce qu'il contenait, la bibliothèque. Pendant longtemps, nous n'avions pu nous familiariser avec les enseignements des 100 rois qu'à travers leur réfutation par leurs adversaires. La bibliothèque de Nag Hammadi allait changer tout ça. Voilà, donc là, toute la situation est plantée.
Oui, c'est en 3-4 extraits du livre, on a une idée de ce dont ça doit parler. Maintenant, est-ce que je...
Vas-y.
On va terminer de contextualiser, et puis après, je, je dois répondre à 20 là, à la, au passage de, au voilà. passage de l'évangile de Jean. Donc, le livre qui traite donc de la découverte des manuscrits de Nag Hammadi et donc des textes qu'on a attribués à ceux que, des gens qu'on a appelés les gnostiques, commence avec un portrait, enfin, de Jésus, avec une, à l'intérieur même du Nouveau Testament, des passages qui amorcent ou qui amènent aux idées de ceux qu'on a appelés les gnostiques. C'est-à-dire, en particulier, et ça c'est un moment très important, de Jésus, en particulier à l'idée que ce monde appartient au mal et la création d'un Dieu mauvais. L'idée de la création d'un Dieu mauvais qui est ce qui distingue ce qu'on appelait les gnostiques des chrétiens. Les chrétiens aiment beaucoup le Dieu. Les gnostiques le détestent, mais vraiment ne peuvent pas le saquer. On a des éléments de ça dans l'évangile.
Et pourquoi? Parce qu'il est trop patriarcal?
Parce que c'est un gros con, parce que grosso modo il a créé les hommes inégaux, il a demandé à être adoré, il les espionne, il sait tout ce qu'ils font, il lit dans leur cœur, etc. C'est genre la pire des, enfin c'est le pire être humain possible n'est rien comparé à la violence immense de la divinité telle que les hommes l'adorent.
D'accord.
Tu ça peux, peut pas être. C'est,
on oui. va couper. On
ok.
Coupe, là, on,
ah, vas-y.
On voit la page 20 là. On en voit la page 20 parce que.
Oui.
Comme ça, si on explique trop bien, ça sert à rien où j'ai mis le livre. Moi, il est
mais tu l'as déjà lu la page 20. Tu veux que j'en
alors,
tire une autre?
Oui, vas-y, tire en
ok. Page 180.
180.
Yves, on t'entend
voilà.
pas.
Non, je vous laisse faire.
Ouais, bah,
je vous laisse faire parce que on va se brûler, voilà. mais je
donc,
pense
là,
que lui, il cassure un maximum.
Donc
je,
là, on,
je vais
là,
déléguer mon mandat, j'ai confiance en lui.
Alors, là, on,
oui.
pourtant, dans les années 60, pourtant, les années 60 furent la date de naissance de ce paradoxe et le lieu de ce qu'il faut bien appeler la victoire des 100 rois.
Ok, bah, c'est le 180, c'est le passage où on a le titre du livre.
Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 60, alors?
Parce que, pour la première fois, en particulier dans les chansons des Beatles, dans les romans de science-fiction de Philip K. Dick, c'est les deux plus gros exemples que j'ai donnés, les idées qui étaient des idées minoritaires, qui étaient les idées qu'on pouvait trouver dans les textes gnostiques, sont devenues des idées majoritaires.
En particulier avec la pop musique.
Alors avec les Beatles, c'est un cas exceptionnel par rapport à ça. C'est-à-dire le Nowhere Man, même, Nowhere Man, homme de nulle part, c'est une des façons dont s'appelaient les sans rois, enfin les gnostiques. C'est une des définitions que Jésus donne d'eux dans les textes de Nag Hammadi. Donc je veux dire, on peut aller très loin comme ça. Toutes les figures de solitaire des chansons des Beatles sont des figures qui portent en elles un destin, le fait qu'ils ne pourront être que ça, ils ne pourront être que des gnostiques ou des sans rois. C'est-à-dire qu'ils devront accomplir le destin de Jésus en dehors de toutes les formes hiérarchiques et toutes les formes de pouvoir qu'on peut exercer sur les
autres.
Donc
en fait, les gnostiques,
c'est une divinité sans pouvoir.
Pour situer un peu les auditeurs, c'est les cathares, quoi, en gros.
Oui, les cathares, voilà. Exactement. Il y a eu les cathares.
Voilà, il y a eu les cathares.
Et alors, page 166.
166.
C'est vraiment l'interview la plus bizarre dans laquelle j'ai jamais été.
Mais quoi, alors.
On...
C'est
ton livre qui lui a inspiré ça.
Ah
ça,
bon
ça vient de toi, je pense.
La culture pop, pop oui. musique, science-fiction, série télévisée et oui. la variable d'ajustement entre la divinité et nous. Attention
oui.
là.
Oui, absolument. C'est ça, c'est complètement dans le chapitre.
Ouais.
C'est exactement cette question-là. Ouais.
Alors.
Alors, le truc, c'est que, bah, encore à l'époque où j'écrivais le livre, c'est il y a pas si longtemps, hein, c'est le livre vient de sortir. Culture pop, mais là aujourd'hui il y a un truc qui va plus du tout avec culture pop. Mais on va dire ce qu'on appelle la culture pop, ou en tout cas les éléments principaux, les éléments qui la composent principalement, que ce soit les chansons rock, chansons des Beatles, chansons soul, que ce soit les romans de SF, les romans fantastiques, les romans d'horreur, que ce soit là les séries télévisées, pour
voilà.
moi c'est un truc vraiment central aujourd'hui.
Là.
Ah oui, c'est un élément central aujourd'hui. J'aimerais bien qu'on arrive à trouver un autre nom que culture pop maintenant, parce que culture pop maintenant
pop
c'est
culture,
comme
culture alors.
Non mais c'est comme le christianisme par rapport au Christ.
Hein.
Voyez, c'est-à-dire que d'un puissant message d'émancipation, on est en train d'en faire un nouvel outil d'asservissement des hommes. J'ai craint de ce truc-là parce que c'est.
Qu'est-ce qui fait charnière entre le moment où tu as écrit le livre et aujourd'hui? Quel a été le glissement?
Je vois pop partout, écrit partout. Bon, ça fait longtemps, hein, mais là, ça devient insoutenable.
Non, mais ça, c'est Dickien.
Il n'y a pas un seul magazine où il n'y a pas. Il nous explique tout sur la pop ou.
C'est comme dans un.
On parle de la pop. Oui.
C'est comme un bouquin de Kadik. Tu vois pop partout. Kadik, tu vois, il voyait des messages. Il y avait des messages. La divinité lui envoyait des messages.
Oui, mais c'était des bons messages. Là, je sais pas. Là, j'ai un peu peur.
En fait, tu confonds ton imaginaire avec l'époque. C'est toi qui vas muter et tu vas nous faire un truc. Tu vas changer. Tu vas changer. Tu sens que tu vas changer.
Il va métamorphoser.
45. Je vais changer avant la fin.
C'est bien de changer de registre comme ça. Parce que
pour moi, le pop, c'est l'Angleterre, si tu veux. C'est les Smithsons, c'est les années 50. C'est un discours contre le Corbusier. C'est très, très tôt.
Ouais.
C'est déjà dégénéré. Andy Warhol, tout ça.
C'est
une version dégénérée.
Attends, oui. Parce que là, j'ai vraiment. Ça se compte. Il y a la logique, là. Ouais. L'interdiction de la magie présentée comme une pratique démoniaque par les chrétiens s'est déduit facilement du monopole qu'ils veulent établir sur le domaine spirituel. C'est évidemment le contraire qu'il faut dire. Pour se défendre contre les puissances de mort, toutes les méthodes non violentes sont légitimes. Mmh. Et parmi celles-ci, les actes artistiques et les pratiques magiques peuvent être mises sur le même plan. Et là, on en retrouve la pop, les Zeppelin
et
tout ça.
Oui, absolument, tout à fait. Là, je sais même pas comment, je sais même pas quoi commenter parce que je veux dire, ce que j'ai à dire serait la
réponse. Voilà. Ça recoupe ce que.
Ça recoupe.
Je suis d'accord avec le monsieur.
Voilà. Ça recoupe ce qu'on disait avant sur les idéologies totalitaires quand l'interdiction par les autres d'utiliser tes pratiques.
Oui.
Le monsieur roumain qui était là parlait que son père a eu des ennuis parce qu'il était philanthrope.
D'accord.
Et c'était le communisme qui était philanthrope. C'était pas possible qu'il y ait un type qui croit en Dieu, qui soit philanthrope. Il devait être un salaud. C'était un riche propriétaire terrien. C'était un salaud. Il faut être sérieux. Voilà.
Bon. Mais c'est vachement intéressant, ça. Tiens. C'est vachement intéressant parce que à partir du moment où une pratique spontanée devient un dogme, en fait, elle interdit la reproduction de cette pratique chez les autres à partir du moment où ils le font en dehors du dogme lui-même.
Ce qu'on appelle bêtement la récupération.
La récupération, oui. Non, mais tout à fait. Mais tu vois, il m'a fallu du temps pour comprendre ces trucs-là. 69. Hein.
69.
Alors, faisons 69, le 69. Voilà.
Alors, tiens, là, on va changer un peu de sujet.
Ouais.
Mais c'est très d'époque, là.
Ah oui.
Pourquoi est-ce si important de manger de la viande aux yeux des chrétiens?
Ouais, bien sûr. Très intéressant. Mais non, mais le sujet m'intéresse beaucoup. Alors, c'est vrai que c'est d'époque. Mais je suis de mon époque. Hein. Ah. Moi la question végétarienne est arrivée dans ma vie super tardivement. Hein. Elle est arrivée entre 10 et 5 ans, quoi. Mais la logique qui préside n'aurait pas pu m'arriver si l'acte de foi lui-même de dire j'arrête de manger de la viande n'était pas arrivé. Probablement. Dans un premier temps, il y a l'idée de... C'était quand j'étais face à un steak et puis d'un coup, vraiment, j'ai eu un espèce de dégoût. J'ai failli recracher toute ma viande et j'ai arrêté du jour au lendemain. Mais ça a été préparé, évidemment, certainement par toute l'époque. Ça, il n'y a pas de doute. Mais ensuite... La question m'a intéressé, pas dans un but militant, parce que je suis pas du tout militant. Enfin, j'ai pas milité pour les gnostiques, c'est un peu comique, quoi. Les mecs sont pas là pour toucher le bénéfice. Mais la question végétarienne m'intéresse énormément parce que en remontant dans l'histoire des gnostiques, des réfutations des gnostiques par les chrétiens, un truc sur lequel les chrétiens reviennent tout le temps, c'est que les gnostiques, ils sont énervés parce que les gnostiques ne mangent pas de viande. Ça les énerve. Et même les manichéens, Augustin. Qui était un manichéen et qui est devenu chrétien, il a plus de mal à se remettre à manger de la viande, mais il se force, quoi. C'est-à-dire qu'il explique, il dit, alors, donc, faut se forcer, quoi. Mais c'est comme les enfants.
Mais
il faut se forcer.
Pourquoi les chrétiens ne mangent pas de viande, alors?
Les chrétiens mangent de la viande parce qu'ils tiennent énormément à l'idée que l'homme est à l'image de Dieu et que donc, par rapport à ça, toute autre créature doit être doit être à son usage. C'est pour conserver une hiérarchie entre les êtres. C'est-à-dire que, en fait, les chrétiens mangent de la viande parce que leur Dieu les mange.
Alors, je pourrais dire, d'accord, j'ai un livre sur l'architecture verte, par exemple, pour sortir de la question végétarienne.
Oui.
Et ce livre commence par « Les chrétiens ont sali la terre, ont tout abîmé, parce que Dieu a mis l'homme au centre de la terre et tout à son service.
Oui. »
Et dans ce sens-là, moi qui pratique depuis toujours un végétarisme modéré, mais qui aime bien le steak tartare quand même, je dois dire que je comprends très bien cette façon d'être rade, de jeter des sacs en plastique dans la mer et tout ça, et que... Il y a effectivement quelque chose, mais ça ne nous donne pas plus d'amitié pour les bouddhistes, tu vois.
Allez, on change de sujet. Enfin, j'espère.
75 bis.
75 bis.
Il y a une page 75 bis dans le livre, alors ça m'intéresse.
Non, c'est parce qu'il y a deux phrases.
Ah, d'accord.
Tu vois. Et donc là, c'est comment le début ? On trouve également l'idée d'une divinité plus petite et plus faible que l'homme et auquel celui-ci ne doit pas obéir, mais qu'il... doit au contraire incarner et défendre. Alors ça, j'aime beaucoup cette idée de la divinité fragile.
Oui, ça, on a ça énormément dans les textes de Nag Hammadi. Et aussi, non seulement la divinité fragile, mais par moments, il y a aussi des conseils. Faites-vous le plus petit possible pour pouvoir être le plus proche de moi.
Nowhere man.
Oui, c'est des nowhere men. Ouais. C'est une image. C'est là où ça, tout est renversé. Parce que, par exemple, mettons, quand j'explique le truc sur le dieu méchant, etc., le dieu salaud, démiurge, il y a plein de types de matérialistes qui peuvent être d'accord avec ça. Ils disent, c'est pour ça qu'on est matérialiste. Mais par contre, dans la perspective de ce qu'on a appelé les gnostiques, des 100 rois, c'est contrebalancé par une autre divinité, qui, elle, est une divinité beaucoup plus fragile et beaucoup plus faible que l'homme. Et sans l'homme, cette divinité, elle serait quasiment déjà morte. C'est-à-dire qu'elle est elle-même en prison, dans la prison dans laquelle nous sommes. Si nous, on est en prison sur Terre, la divinité est en prison dans notre prison. Et ça entraîne une vision de l'homme par rapport à la divinité qui est très différente, qui est aussi un rapport qui est chevaleresque. C'est-à-dire que c'est derrière, il y a l'idée qu'il faut aller à son secours.
Oui, c'est l'homme qui crée sa divinité, en fait.
Il la crée pas, il la reçoit.
Voilà.
Mais on ne crée pas les personnages de fiction non plus, à mon avis. Mais bon, ça, c'est une autre histoire.
C'est médiumnique, tout ça.
Oui, c'est-à-dire qu'on est inspiré.
15.
Ok.
Tu peux faire toutes les questions.
Non,
193.
Mais ça. Bon, je ne sais pas si ton attaché de presse, excusez, va bien apprécier cette interview.
Mais
est-ce que l'auditeur va comprendre quelque chose?
On mettra la couverture du livre sur la page de podcast.
193.
Non, pour l'attaché de presse, c'est bon. Mais on va faire de la pub sur la page de podcast.
Un message qui va.
Audrey, tu leur diras quoi? Tu leur diras. Si t'es d'accord ou pas.
Alors, on revient à la série télévisée. Ce qui est en jeu dans le domaine de la série télévisée, c'est la recherche d'une nouvelle prêtrise, attention, non institutionnelle, tributaire d'une éthique du, alors là, je sais pas si c'est du Galsenheit, ou laisser être.
Moi aussi, je savais pas, mais je l'ai recopié d'un livre avec le mot en allemand.
D'accord. Donc là, on rentre dans le taoïsme, là, un peu.
Non, c'est le truc de la théologie négative. D'accord. De Maître Eckhart et tout ça. Ouais. Parce que quand bien même il y a le christianisme a combattu ce qu'on appelait le gnosticisme a réussi, les idées du gnosticisme ont réussi à perdurer dans tous les monothéismes, dans les trois monothéismes. C'est-à-dire que le plus net, ce que tout le monde sait, tout ça, c'est le soufisme. Le rapport entre ce qu'on a appelé la gnose et le soufisme sont vraiment extrêmement nombreux. Dans le judaïsme, la kabbale. Et en fait, dans le christianisme, même le christianisme n'a pas pu s'empêcher parce que c'est consubstantiel à l'homme aussi. C'est-à-dire que dans tout homme, il y a un gnostique. Comme dans tout homme, il y a un chrétien. Et donc, le gnostique dans le chrétien a produit la théologie négative. Et donc, a pu produire une éthique aussi belle que celle de Maître Eckhart, qui est celle de... C'est pour ça que je l'ai mis en allemand. Ça fait très, très pédant, mais je crois que c'est le terme. C'est Galassenheit.
Tu crois vraiment que dans tout homme, il y a un monothéiste?
Dans tout homme, il y a un monothéiste. Dans tout homme, il y a un gnostique.
Je suis païen.
Oui, je sais.
100% païen.
Mais dans le panthéisme que tu es, malheureusement, il y a peut-être un monothéiste quelque part que tu ignores
j'ai eu une éducation catholique, donc je suis très anti-catholique, parce que j'ai souffert de mon éducation.
Ouais.
Mes bonnes sœurs étaient méchantes, elles m'arrachaient les cheveux, tout ça, donc j'ai encore, je ne suis pas de la génération de bouffeurs de curés, c'était déjà réglé, ils avaient plus vraiment de pouvoir, sauf sur les enfants abandonnés, dont je faisais partie. Mais, je crois pas que dans tout homme, il y ait des monothéismes. Je crois que le monothéisme est une vision de l'esprit, personnellement.
Oui.
C'est une,
Et donc, en fait, on va résumer le bouquin, parce que là, il y a l'arrivée des 100 rois, là.
Ouais.
Donc, c'est la victoire des 100 rois.
Ouais.
Et tu la vois vraiment, la victoire des 100 rois, là, ou tu la vois venir?
Je la vois... Non, je la vois.
D'accord.
Loïc, il pense qu'on va vivre la fin du monde, il est dans le courant apocalyptique.
Comme tout le monde, quoi, c'est pas très...
Ah, moi, pas du tout.
Pas du
Tu es optimiste.
La fin du monde, disons que, si tu veux, la fin du monde, elle a lieu... Mais en même temps, il y a tout autre chose, quoi.
Et comme tu dis, il faut ressusciter.
Merci tout le monde, je crois qu'on arrive à la fin. Il y a le technicien qui me fait des signes. Encore une minute.
Il faut ressusciter avant de mourir, c'est ça.
Donc il faut vivre l'apocalypse et d'ailleurs ensuite la parousie dans ce monde.
D'accord.
De toute façon, il faut la vivre, cette apocalypse.
Vas-y, là, il reste une, je sais pas,
il reste 125
ans.
125 ans. Bon, bah, je vais la dire quand même, peut-être.
Oui, et puis ça sera notre conclusion.
Et puis, on s'excuse pour l'attachée de presse, comment elle s'appelle?
Elle s'appelle Audrey.
Audrey, bah.
Elle n'aura jamais entendu autant son prénom ce matin, voilà. Désolé.
Salut Audrey.
Face à la Terre des Ténèbres et à son prince, la bibliothèque de Nag Hammadi est un livre dont l'objectif est de transformer notre faiblesse en force. La bibliothèque de Nag Hammadi est un livre dont l'objectif est de faire métamorphoser notre désespoir en illumination et faire de notre prison de fer noir, c'est là où on vit en ce moment, là, dans cette pièce, une piste de décollage vers le royaume.
Yes.
Voilà, pas mal, hein.
Pacontiellement,
Yves Tanré,
Thuro d'Angin, Loïc Konanski, et moi-même, La vie est un roman, Yves Tanré.
Allons chez Hippopotamus.